Bon, d'abord, merci d'être venu. J'ai une journée vraiment intéressante à Orléans parce que j'ai eu le plaisir et le privilège de parler au lycée Benjamin Franklin aujourd'hui avec des jeunes, des élèves qui n'étaient pas apparemment obligés de venir. Alors, j'étais très gratifiée qu'ils soient venus, comme je le suis de même ce soir, de voir que la salle est pleine, et je veux remercier mes camarades d'attaque Orléans et 45 de leur invitation. On va essayer de couvrir un maximum de territoire ce soir, mais on n'arrivera pas à tout faire de ce qu'il y a dans un livre de 300 et quelques pages, je ne sais même plus combien. Et donc, je vais répondre à la fin, naturellement, on va avoir une bonne partie ouverte aux questions, à la discussion, pour que vous puissiez dire quelles sont vos préoccupations principales. Mais comme dit Rémi, c'est sûr que Attac avait prévu cette crise depuis de longues années. Et je dirais même que je l'utilise, tout le monde utilise le mot crise, mais le mot crise est impropre. Nous ne sommes pas, stricto sensu, dans une crise, parce que si on regarde les origines de ce mot, la racine grecque dit la crise, c'est un moment de décision. C'est un moment qui tranche. C'est un moment où, par exemple, dans la maladie, la crise, c'est ou bien on va revivre, ou bien on va mourir. Mais c'est ce moment critique où la décision est prise et nous ne sommes pas du tout dans cette configuration-là. On va faire l'embranchement là ou là. Non, on est dans quelque chose d'assez permanent. Depuis 1980, les crises financières se rapprochent, mais en même temps, il y a toute une série d'autres crises que j'essaie de traiter dans le livre et qui sont de plusieurs natures. Et pour essayer de décrire cet état du monde, je pense qu'il faut presque parler d'une sorte de crise universelle ou intégrale ou totale, parce que c'est dans tellement de domaines qu'on laisse très peu de choses en dehors. Hein. C'est au nord, c'est au sud, c'est climatique, c'est multiforme. Alors, essayons de prendre deux métaphores que j'ai voulu utiliser pour décrire tel que je le vois l'état de ce monde. La première est une série de cercles ou de sphères concentriques. On peut regarder le monde comme ça, me semble-t-il, le cercle extérieur est le plus puissant, le plus influent. C'est sans aucune contestation possible, me semble-t-il, la finance. La finance nous gouverne de plus en plus. La finance a triomphé de toute une série d'obstacles, a fait ses lobbies, a fait en sorte que les gouvernements, en particulier en commençant par les États-Unis, mais partout ailleurs, que ces obstacles ont été abolis et la finance a pu investir où elle voulait. Elle a utilisé la mondialisation comme une permission d'aller investir partout et dans tout. Et cette finance-là, elle est principalement anglo-saxonne, américaine et britannique, mais naturellement, nos banques en Europe continentale n'ont pas été en reste. Et d'ailleurs, il y a énormément de traders français qui sont à Londres ou à New York, et moins inversement, mais maintenant, le secteur de la finance est globalisé et très unie dans ses exigences. Et l'une de ses exigences, c'est de ne plus être réglementée du tout. Cela a été réalisé aux États-Unis depuis une bonne quinzaine d'années, où le lobby de la finance a dépensé ce qui était pour elle une misère, mais quand même 5 milliards de dollars, pour abattre une série de lois qui avaient été mises en place depuis les années 30 et qui l'empêchaient d'aller partout et de faire tout ce qu'elle voulait. Principalement, une chose qu'il est important d'avoir en mémoire, même si ça n'a pas été la pratique en Europe, le fait que les banques dites de dépôt, les banques commerciales, là où vous mettez votre salaire, vous avez un chéquier, vous y allez pour demander un prêt si vous en avez besoin, mais c'est une banque commerciale qui traite avec les individus et les petites et moyennes entreprises. Ces banques-là devaient être séparées des banques dites d'investissement. La banque d'investissement est un tout autre animal. La banque d'investissement met les grandes actions et les grandes obligations sur le marché. Elle s'occupe des fusions et acquisitions de grandes firmes. Elle n'est pas du tout rémunérée comme l'est une banque commerciale qui traite avec les individus et les petites entreprises. Non, elle est rémunérée par honoraire. Et c'est elle, par exemple, moi ça m'a étonné quand je l'ai apprise, je ne suis pas économiste de formation, ce sont ces banques d'investissement qui mettent les bons du Trésor des États sur le marché. Ce sont ces banques qui peuvent emprunter à la Banque centrale européenne et qui ensuite reprêtent aux États, à la France, au Portugal, à la Grèce, etc. Ce sont des banques qui peuvent emprunter à 1% et reprêter aux États à 5, 6, 7%, parfois au-delà. Donc, ce n'est pas génial de faire de l'argent, mais elles font de l'argent avec des honoraires et avec des opérations comme ça en bourse ou en mettant des titres sur le marché. Et autrefois, en tout cas aux États-Unis, la banque de dépôt et les banques d'investissement étaient séparées. C'était une décision, l'une des premières de Franklin Roosevelt, et ça a toujours empêché les banques de faire ce qu'elles voulaient. Et enfin, en 98, après une dizaine d'années de lobbyisme, elles ont eu gain de cause et les banques ont été autorisées à se fusionner. Et ça a fait tout de suite des espèces de gigantesques structures qui devenaient, du coup, comme on dit en anglais, too big to fail, trop grandes pour faire faillite. Elles ne pouvaient plus faire faillite pour la bonne raison que si elles faisaient trop de bêtises, si elles allaient trop au-delà des règles de prudence, ben, ce seraient les États qui les rattraperaient parce que les États ne pouvaient pas faire autrement, parce que sinon tout s'écroulait. Et c'est un épisode comme ça que nous avons connu en 2008, quand une très grosse banque d'investissement a fait faillite, Lehman Brothers. Et le gouvernement a été obligé immédiatement de mettre sur le comptoir 787 milliards de dollars pour renflouer le système, parce que sinon tout risquait de s'écrouler. Et ça aurait été pire. Heureusement que les États-Unis et puis les autres à la suite ont mis ce qu'il fallait pour empêcher l'effondrement du système financier, parce que si ça avait continué, c'est chacun, ici comme ailleurs, qui aurait perdu ses assurances, son compte en banque, sa pension, et ainsi de suite. Ça aurait été vraiment la catastrophe. Donc, il fallait sauver ce système. Mais pourquoi le système en était venu à ce point? Parce que les banques voulaient devenir le plus grosse possible, pouvoir faire tout ce qu'elles ont fait et être en effet too big to fail. C'est toujours le cas. On régule un petit peu à la marge, on a remis en place quelques règles, mais pas les principales. Et les banques ont aussitôt recommencé à faire les mêmes bêtises, pour ne pas dire pire, plus vulgaire, qu'elles ont faites pour en venir à cette situation. Donc, je veux parler des métaphores, parce que si je continue sur les banques, ça peut durer toute la soirée. Finance nous gouverne. Maintenant, les banques sont devenues aussi puissantes, plus puissantes dans beaucoup de cas que les États. Et je dis parfois, c'est une boutade, mais quand même pas tout à fait, qu'on vote pour des gens, on élit des politiques, et puis ces politiques remettent immédiatement leurs affaires entre les mains des banques. Pourquoi ne pas voter à ce moment-là directement pour les banquiers? Ce serait plus simple. Mais regardez vous-même. Hein? La France tremble quand elle risque d'avoir ce bon du trésor dégradé un petit peu. Quand elle risque d'avoir une notation AA+, plutôt que AAA. Dans les agences de notation qui sont privées d'ailleurs. Elle tremble et elle dit « Oui, 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 tout de suite on va s'attaquer aux retraites. » Parce que c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas, les marchés? Vous voulez qu'on réduise le déficit, ben, on peut le faire en s'attaquant aux retraites. On va vous contenter, les marchés vont être contents. Les marchés maintenant, c'est comme une sorte de les dieux, d'Olympe, on ne les voit pas, mais on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont exigeants, on sait qu'il faut leur faire des sacrifices, qu'il faut brûler sur leurs autels un certain nombre de victimes, que ces victimes soient les peuples, ça ne dérange pas en général les gouvernements, il faut faire des sacrifices pour les marchés, parce que les marchés savent tout, prévoient tout et sont omniprésentes et omnipotentes.